Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h19, c'est l'heure de votre débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on va parler de l'avenir de la montagne, cette montagne déjà malmenée par le réchauffement climatique. Et voilà que le Covid vient enfoncer le clou. Et si la crise sanitaire n'était pas tout simplement en train d'accélérer la reconversion des stations de sport d'hiver, à quoi pourrait-elle ressembler dans le monde d'après? On en parle ce soir avec mes invités en direct. Armel Solélac, fondatrice et présidente de Switch. C'est une agence de prospective et de stratégie spécialisée dans le tourisme. Bonsoir à vous. Vous êtes également, vous êtes également auteur de management et marketing des stations de montagne. C'est aux éditions territoriales. Également avec nous, Serge Cavessian, fondateur et dirigeant de Scalliance, qui accompagne les collectivités sur la transformation vertueuse du territoire et notamment les stations de ski. Bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Desmures, journaliste, écrivain, créateur du Lama Project. Il s'agit du premier laboratoire d'idées consacré à la transition des modèles économiques des stations de montagne. Bonsoir. Et Thibaut Nug, urbaniste et associé au sein du groupe Patriarche, qui est basé à Chambéry. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Et merci de m'accompagner ce soir. Je précise qu'on passera aussi des coups de fil dans les stations pour illustrer ce débat.
La montagne, ça vous gagne.
Voilà, vous avez reconnu la campagne fameuse, célèbre, et surtout la voix de Barry White pour vanter cette montagne qui nous gagne. La montagne de notre enfance, où l'on découvrait les joies du ski l'hiver et de la randonnée ou de la pêche l'été. Un trésor qui se méritait et qui depuis a subi plusieurs chocs. Celui du tourisme de masse d'abord, qui a amené les stations à se réinventer à coup d'investissement. Celui du réchauffement climatique ensuite, que l'on a tenté de compenser tant bien que mal avec la neige artificielle. Et aujourd'hui, le Covid. Le 26 novembre dernier, notre Premier ministre Jean Castex a inventé un nouveau concept, la montagne sans le ski. Alors vous allez me dire, ce n'est pas un drame, hein. Le ski c'est réservé à une élite, 8% seulement des Français y vont une fois tous les ans ou tous les deux ans. C'est vrai, sauf que jusqu'à présent, une grande partie de l'économie de nos montagnes repose sur cette activité. C'est un marché à 11 milliards d'euros, c'est vous dire l'importance du sujet. Et avant de voir comment la montagne peut se réinventer dans les 30 ou 40 prochaines années, on va d'abord dresser, si vous le voulez bien, l'état des lieux. Alors avec les restrictions sanitaires et les stations de ski français sont privées bien sûr de leur remontée mécanique, leur poumon financier, elles doivent donc se réinventer. Qu'est-ce qui a été mis en place à court terme quand on a appris effectivement cette fermeture des remontées mécaniques, Anne Solélac?
Alors, la première chose, c'est d'abord des conditions de réservation extrêmement flexibles pour permettre une réservation en ultra dernière minute, mais aussi une annulation en ultra dernière minute. Ensuite, c'est beaucoup d'activités nordiques, notamment donc le ski de fond, les balades en raquettes. On a eu du ski de joring, on a la possibilité de faire toutes les activités de bien-être, le yoga, les cours. Il y a tout un tas de cours en plein air qui sont organisés. Et puis beaucoup de découvertes du patrimoine qui est extrêmement riche en montagne et qui est souvent ignoré des visiteurs. Beaucoup de cours de cuisine, tout un tas d'animations qui permettent de vraiment découvrir l'art de vivre en montagne au-delà des activités sportives en montagne.
Oui, les stations se sont toutes diversifiées, hein, vous le disiez, dans le patrimoine, dans le ludique ou dans le bien-être. Les Français qui ont découvert les autres activités de montagne cette année avec la fermeture des remontées mécaniques sont des clients qui pourront revenir, qui pourraient être conquis à l'avenir par ces nouvelles activités, peut-être, Guillaume Desmures?
Alors oui, évidemment, c'est un terrain d'expérimentation incroyable puisqu'on se retrouve dans une situation qui est complètement inédite et que personne n'aurait jamais imaginé depuis la construction des stations françaises dans les années 60, qui est basée sur les remontées mécaniques et sur l'immobilier, de se dire un jour, tiens, on va ouvrir nos stations, mais sans les remontées mécaniques. Donc là, on se retrouve dans une situation qui est complètement inédite. Et chacun, il faut bien le dire, fait un peu comme il peut. Tout ce que vous avez cité, tout ce qu'a cité Armel, c'est vrai, ça existait déjà avant. Sauf qu'aujourd'hui, cet hiver, il ne reste plus que ça.
Oui. Et alors justement, Serge Cavessian, est-ce que les stations vont devoir pérenniser ces activités diverses qu'elles ont mises en place cette année, comme les jeux ludiques, on en parlait, la luge, les raquettes? Ça peut être une aubaine finalement pour toucher un autre public peut-être?
En tout cas, on observe une chose. Là, je vous parle actuellement en direct d'une station qui est pleine de monde, les gens sont venus, les gens sont au rendez-vous. Et les gens redécouvrent aujourd'hui la montagne pour ce qu'elle est, pas forcément pour ce qu'on en a fait. Et ce qui est bien dans ce que vous appelez la montagne qui se réinvente ou les stations qui se réinventent, en réalité, on est ni plus ni moins qu'en train de faire revenir ce qu'est la montagne avec toutes ses richesses, avec toute sa diversité. Et les gens, c'est ce qu'aujourd'hui les gens veulent voir. Donc c'est ce qui permet aussi de changer ce modèle qui était basé uniquement, d'abord qui était très dépendant de la saisonnalité et de l'hiver, mais d'élargir ce modèle aujourd'hui pour rentrer dans un modèle toute saison et qui, chaque saison, apportant ses propres potentialités. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus de courts séjours, beaucoup moins de longs séjours, et donc se déplacent beaucoup plus fréquemment. La montagne est accessible, très facilement accessible, et on se rend bien compte que c'est pas seulement la question ou la chose des exploitants des stations, c'est aussi d'autres acteurs qui interviennent, notamment pour amener les gens dans des conditions aujourd'hui plus écologiques, décarbonées. On a en France la chance d'avoir un maillage par train, par TGV qui est absolument exceptionnel. De faire venir les gens par train et de manière décarbonée, et ensuite, et l'État ainsi que la région aura notamment y aide beaucoup pour promouvoir notamment des ascenseurs valéens à l'arrivée du TGV et de pouvoir accéder et connecter la vallée au massif, c'est ça l'avenir.
Oui.
Et c'est ce que les gens attendent.
On va reparler de l'avenir, effectivement, mais pour redécouvrir cette montagne telle qu'elle est, comme vous disiez, c'est une belle formule, il va falloir aussi un peu changer les mentalités. Thibaut Nugue, jusqu'à présent, 85% des Français qui venaient à la montagne en hiver, c'était pour skier. Et d'ailleurs, pour satisfaire ces skieurs, les stations ont investi des fortunes dans des infrastructures, dans des aménagements. Hein. On rappelle que la France est la première destination mondiale.
Oui, c'est vrai, mais je pense que les stations, elles oscillent maintenant entre deux tendances. À la fois, continuer à investir sur des équipements qui sont sans doute de plus en plus diversifiés. Ça, c'est vrai, et je rejoins ce que disaient les autres invités. Et en même temps, se poser la question d'y installer finalement un mode de vie plus pérenne. Et je crois que ça, c'est l'enjeu dès lors qu'on fait de la prospective sur la montagne. C'est que je pense que les deux pandémies, enfin la pandémie qu'on traverse plus, les problématiques de changement climatique qu'on connaît tous maintenant, remettent un peu ces territoires-là sur le devant de la scène, et toutes les stations se posent la question aujourd'hui d'attirer finalement une population et une clientèle, on va dire, plus permanente, même si la notion de permanence, on va peut-être en discuter, mm-hmm. Parce que la pandémie actuelle nous montre qu'on a des actifs qui vivent en ville et qui parfois terminent la fin de semaine en montagne, sur du très court séjour, en continuant de travailler. Donc il y a une continuité aussi entre un territoire de loisirs et un territoire de vie, qu'il va falloir vraiment re-questionner. Et je pense que là, on a une très belle opportunité devant nous pour le faire.
Et le télétravail va d'ailleurs peut-être accélérer ça. On va y revenir, évidemment. On se retrouve dans un tout petit instant pour poursuivre ce débat. La montagne du futur, car oui, il va falloir se réinventer. Vous verrez qu'il y a plein de monde, hein, qui planche déjà en ce moment, en coulisses, sur cette montagne de demain. Tout de suite. 19h30, de retour dans votre débat du Club des Idées. On parle ce soir de l'impact de la crise sanitaire, notamment sur nos montagnes. Crise qui accélère la prise de conscience sur une mutation inéluctable. Et si le Covid était une chance, finalement, l'opportunité de revoir complètement notre rapport à la montagne, la pandémie devrait accélérer, voire précipiter ce mouvement inéluctable. On continue d'en parler avec mes invités ce soir. Armelle Solélac, fondatrice présidente de Switch, agence de prospective et de stratégie spécialisée dans le tourisme. Serge Cavessian, fondateur et dirigeant de Scalliance, qui accompagne les collectivités sur la transformation vertueuse du territoire et notamment les stations de ski. Thibaut Nugue, urbaniste et associé au sein du groupe Patriarche, basé à Chambéry. Et Guillaume Desmures, journaliste, écrivain, créateur du Lama Project. C'est un laboratoire d'idées, hein, consacré à la transition des modèles économiques des stations de montagne. Alors en 30 ans, Météo France a évalué la hausse des températures dans le massif alpin à 2 degrés. Dans certains massifs de moyenne altitude, comme celui de la Chartreuse, par exemple, l'enneigement a perdu 30% depuis 1990. Alors bien sûr, il y a le Covid aujourd'hui, on en parlait, mais à la montagne, l'urgence aujourd'hui, elle est d'abord climatique. La saison de ski dure 38 jours de moins que dans les années 60. Le climat se réchauffe, la neige fond et parfois même ne tombe plus. Il faut monter de plus en plus haut en altitude pour en trouver tout l'hiver. Résultat, on fait marcher à plein régime les machines à neige. Une course à la neige qui ressemble parfois à du grand n'importe quoi. Cette course à la neige, je vous pose la question, les stations sont-elles prêtes à l'arrêter dans les prochaines années, Serge Cavessian?
Ah, moi, je crois qu'elles ont déjà lancé cette réflexion depuis longtemps. Vous savez, les exploitants des stations de montagne sont des gens de la montagne, sont des montagnards très souvent, sont des gens qui sont amoureux de leur territoire et sont des gens qui ont aussi la mémoire de ce que les anciens ont toujours fait pour aménager la montagne et l'adapter aux conditions climatiques notamment. Et depuis déjà 4, 5, 6 ans, les stations de montagne ont commencé à repenser leur futur en ayant conscience. Alors les uns disent que c'est le réchauffement, les autres disent que c'est le cycle, mais en tout cas les réalités sont là. Et donc repenser ce modèle pour repenser leur futur et élaborer un nouveau modèle économique de la montagne du 21e siècle.
De quelle façon ont-elles déjà commencé ?
Alors de quelle façon ? La première des façons, celle qui paraît la plus évidente évidemment, c'est de sortir de ce monomodèle pour rentrer dans un modèle où on exploitera une station tout au long de l'année et non plus de manière monosaisonnale. Et puis c'est peut-être d'aller chercher un client.
C'est déjà un peu le cas parce qu'on peut aller à la montagne finalement en toute
saison.
C'est
un peu le cas, comme vous le dites, c'est un peu le cas et ça doit devenir beaucoup plus le cas parce que chaque saison apporte ses potentialités. Et puis c'est de resegmenter aussi, c'est plus d'aller chercher uniquement le touriste de loisir, que ce soit le glisseur, le skieur, le surfeur ou celui en été qui n'est que le randonneur, mais aller chercher le touriste d'affaires, les séminaires. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la charte RSE, responsabilité sociale environnementale des entreprises, le bilan carbone de leurs déplacements est un des éléments très importants de leur profil d'entreprise vertueuse. Donc aujourd'hui, les grands meetings de grands managers qui avant partaient à Berlin, Munich ou à Rome en avion, ben aujourd'hui, on prend son TGV et on est à une distance de 3 ou 4 heures, et ben on peut rejoindre nos montagnes et avoir pléthore d'offres pour permettre à ces grands managers de se retrouver et d'avoir des activités à l'appui de leur réunion.
Ah,
mais
oui.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enjeux de transition écologique et de transition énergétique. La montagne est un lieu absolument formidable pour aujourd'hui illustrer et appliquer cette économie verte que l'État aujourd'hui veut enclencher parce que c'est aussi la trace et l'empreinte carbone de nos stations qui ont été souvent par le passé aussi des mauvais exemples en matière d'émissions de carbone. Et aujourd'hui, toutes les stations s'y mettent pour développer des réseaux de chaleur avec des chaufferies biomasse, pour développer le solaire, pour développer des systèmes de récupération d'énergie des eaux usées, la chaleur des eaux chaudes, par exemple, qu'on peut récupérer, le turbinage des eaux usées qui permet aussi de créer de l'énergie. Bref, voilà, il y a un modèle qui est en train de se mettre en place, un modèle vertueux de transformation de nos territoires de montagne. Et faites-moi confiance, la plupart des stations s'y sont mises depuis déjà un moment, dans la perspective de ce réchauffement, pour à la fois adapter le modèle et le désaisonnaliser, si je puis dire, et puis retrouver une clientèle qui n'est pas seulement une clientèle de loisirs, mais aussi une clientèle d'affaires, et puis une clientèle de santé-bien-être. Aujourd'hui, la montagne, ça vous gagne, c'est sûr, mais c'est surtout un potentiel extraordinaire pour se ressourcer, au sens littéral du terme, pour se réoxygéner. Voilà, c'est ça la montagne de demain.
Et ça ouvre effectivement beaucoup de perspectives positives. Thierry Nuc, je vous voyais hocher la tête tout à l'heure. La montagne, lieu formidable pour afficher une économie verte. Vous êtes urbaniste. Est-ce que vous travaillez déjà justement sur des projets permettant de mettre en avant cette économie verte ?
Oui, on essaye en tant qu'urbaniste ou géographe, on essaye toujours de prendre en compte le milieu. Et je pense que là, on parle beaucoup de la montagne en tant que produit touristique, on parle de clientèle. Moi, je reviens sur la diversification finalement d'usagers qu'on pourrait retrouver dans ces territoires de montagne à très court terme. Et donc, l'économie verte, il y a des exemples assez frappants. Il y en a un dans le Vorarlberg, notamment en Autriche, dans les années 90, où ils ont pris un virage majeur pour développer une architecture bioclimatique ancrée avec des matériaux locaux. Et structurer toute une économie locale autour de ces filières de la construction durable. Et aujourd'hui, le Vorarlberg est un des lieux reconnus dans le monde pour cette question-là. Et je pense que c'est un modèle qui est très inspirant, qu'on essaye tous de dupliquer ou d'adapter en fonction des situations qu'on a à gérer. On a travaillé récemment sur le le développement de nouvelles stations en Ouzbékistan, qui est un territoire voilà, en plein essor. Bah, la question, c'est comment on fait des stations différentes des nôtres en évitant les erreurs qu'on a pu commettre aussi.
Alors, elles ressemblent à quoi, ces nouvelles stations en Ouzbékistan?
Écoutez, on essaye de mettre dans ces stations-là beaucoup de choses qui viennent d'être évoquées, notamment la question de la déconnexion, du bien-être, la valeur que cela peut avoir, notamment, et qu'on ne prend pas assez en compte aujourd'hui, parce qu'on parle d'immobilier. Quand on parle d'urbanisme, on crée un produit. Je pense que ce produit-là, il est monétisé. Demain, je pense que la montagne, c'est un territoire où on a de l'air, où on peut se ressourcer, où on peut se déconnecter, ce qui est très important aussi, puisqu'on est tous hyper connectés avec nos smartphones, et on sait que la montagne, ça peut être un très bon moyen de se recentrer, de se recentrer aussi avec les autres. Et donc, on essaye de dessiner des stations qui soient très vertueuses, à la fois sur le plan de la mobilité, de l'énergie, mais qui soient aussi porteuses véritablement d'expériences humaine un peu plus ancrée, en fait, si je puis dire.
Alors ça, ce sont pour les nouvelles stations que vous créez, mais ça, c'est sûr. Quand après, on a une station déjà installée, on fait quoi? On détruit tout?
Il y a un gros enjeu. Vous savez, nos stations, elles se sont construites dans les années 60 sur des utopies architecturales pour un certain nombre d'entre elles, les stations intégrées sur des utopies architecturales et urbaines qui étaient fortes. Néanmoins, ça a produit un certain nombre de patrimoines qui sont plus adaptés aux pratiques actuelles. Encore une fois, quand vous avez une cellule de 30 mètres carrés sans espace extérieur, c'était fait pour l'hiver, pour le studio cabine. Si demain, vous devez pratiquer ça l'été pour respirer, pour aller vous réfugier, si je puis dire, c'est sûr que ce n'est pas un produit qui marche. Donc, il va falloir aussi requalifier les stations, refaire la ville sur la ville, ce qu'on fait en milieu urbain depuis quelques années. On va, et on le commence à le faire en milieu montagnard, très clairement. Et là-dessus, il y a des techniques. C'est un territoire d'innovation fantastique, encore une fois.
Effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives. Guillaume Desmures, on imagine que les stations n'ont pas attendu pour penser à leur avenir, mais on entendait là ces exemples de reconversion. Ça a un coût aussi. Est-ce que les stations, qui sont déjà exsangues en ce moment, sont prêtes à investir justement sur l'avenir?
Alors, les stations ne sont pas exsangues. Elles ont connu une saison écourtée l'hiver dernier. Une saison blanche, alors c'est difficile, certes, ça va avoir des conséquences économiques assez difficiles. Malgré tout, ça reste quand même des business qui sont assez rentables. Et comme on dit, on répare son toit quand il fait beau et pas quand il pleut. Donc il fait encore beau en ce moment. Il y a encore un peu d'argent dans les caisses. C'est le moment où on peut investir, où on peut réfléchir, on peut essayer. Et c'est ce que tout le monde fait ou essaye de faire. Et je voudrais quand même corriger le tableau absolument merveilleux qu'on a eu des stations de ski sur le chemin rayonnant de la mobilité décarbonée, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est peut-être dans le futur. C'est ce qu'on souhaite atteindre. C'est vrai. La réalité aujourd'hui, c'est que les stations de ski sont encore et toujours des stations monoculture qui dépendent du ski alpin pour vivre et pour générer du business. Ski alpin, et on s'y déplace en voiture. 75% des émissions de gaz à effet de serre dans les vallées alpines ne viennent pas de l'exploitation de la station, mais du trafic. On y vient en avion. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on n'a pas de transport décarboné aujourd'hui. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Les trains, c'est de plus en plus difficile de venir en train. On a mis quelques panneaux solaires pour faire joli, mais ça ne fait pas tourner une remontée mécanique. Donc, si vous voulez, tout ce merveilleux paysage qu'on nous a décrit, c'est peut-être celui vers lequel on voudrait se diriger, mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que les stations n'ont pas encore commencé concrètement à changer et aller vers cette économie verte ou aller vers cette transition vers un nouveau modèle économique.
Armel Solé, oui, je vous écoute, pardon.
Donc, non, pour terminer... Par contre, il y a une vraie volonté et il y a une vraie dynamique pour y aller. Donc, on y réfléchit. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, dans toutes les stations, de gens, comme l'a dit l'invité précédent, qui sont amoureux des montagnes et qui habitent dans les montagnes et qui veulent changer les choses. Donc, il y a cette énergie aujourd'hui qui est décuplée par le Covid. Et on est parti. On y va. Il y a des nouvelles municipalités. Il y a des idées. Donc, c'est parti. Mais ça commence. Ça ne fait que commencer.
Vous êtes d'accord avec ça, Armel ?
Je peux vous donner quelques exemples, en tout cas, de stations qui se sont réellement posées ces questions il y a 4-5 ans.
Serge Calessian,
oui. Et qui effectivement se sont posées ces questions et les ont traitées très sérieusement, brique par brique, pour réellement camper ce concept de la station du futur qui est quasiment autosuffisante en termes d'énergie. Je pense notamment à la station de Champs-Rousses qui a validé et qui a mis en place tout un projet avec ce qu'on appelle un smart grid énergétique, un dispositif de production d'énergie renouvelable alternatif, donc qui permettra d'alimenter grandement la station.
Vous montez toujours à Champs-Rousses en voiture et vous n'avez pas d'autre
solution pour monter à Champs-Rousses. On est bien d'accord, cher ami. Mais voilà. le projet justement prévoit que et avec le concours de l'État, avec le concours de la région, qui s'y sont beaucoup beaucoup intéressés, beaucoup investis, mais aussi, et c'était également un point que je voulais faire sur l'économie de cette montagne, il ne faut pas seulement attendre que les stations investissent elles-mêmes. C'est justement l'occasion de faire se rencontrer l'investissement privé et l'investissement public. Il ne faut plus concevoir ces stations comme étant uniquement des objets d'investissement à perte par les pouvoirs publics, mais également des objets d'investissement à profit, je dirais également, par de l'investissement privé.
Alors justement, donc voilà, on a un exemple avec nous ce soir, je vous interromps, mais parce que je voudrais qu'on prenne en ligne René Causse, qui est le président du syndicat mixte d'aménagement du Mont-Lozère. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Je voudrais que vous nous parliez de la station du Mas de la Barque, c'est au cœur du parc national des Cévennes. C'est un exemple typique de reconversion, puisqu'elle a abandonné complètement le ski alpin.
Oui, tout à fait. C'était, comme certains d'entre vous l'ont dit, c'était dans les années 60, les glorieuses où le ski alpin prenait au plus haut point. Donc, dans les années 87, nous avons mis en place des canons à neige, puisque c'était aussi cette grande mode à l'époque. Et nous avons géré cette station pendant 5 ans et la neige commençait à manquer.
Vous êtes à quelle altitude ?
Entre 1500 et 1700 mètres.
Ah oui, quand même. Et la neige commençait à manquer, oui.
Voilà. Donc, les pouvoirs publics, bien sûr, face à des déficits successifs, nous ont mis la Cour des comptes sur le dos. Et on a pris le taureau par les cornes, et nous avons décidé de faire une grande mutation et de transformation de cette station.
Alors racontez-nous.
Voilà, alors vous citiez tout à l'heure, bien sûr, de la clientèle qui fréquente, mais nous avons, nous, les élus locaux des territoires ruraux, des populations locales qui, pour elles, les stations de ski alpin étaient l'activité la plus proche des bassins de vie. Donc, quand on a fait cette mutation, il y a eu aussi un grand levée de population, voilà, qui s'opposait à cette fermeture, qui ne comprenait pas pourquoi on fermait. Donc, la volonté politique a été la suivante, puisque le parc aussi, qui accompagnait nos actions, nous a dit, voilà, il faut aussi essayer de transformer la station de ski alpin. Donc nous avons volontairement arrêté le ski alpin.
Et vous avez fait quoi à la place alors ?
Voilà, ce qui veut dire que nous avons pu développer de l'hébergement de qualité. Nous avons pu proposer des activités de proximité qui bénéficient aux personnes fréquentant les hébergements, mais aussi les populations de proximité.
C'est-à-dire que comme activité, on fait quoi par exemple ?
C'est-à-dire les activités, c'est les activités classiques connues, c'est-à-dire les activités de VTT l'été, les activités de chevaux, les activités d'accompagnement des gardes du parc national des Cévennes qui font des sentiers de découverte avec les gens, qui accompagnent les gens. L'ONF s'investit aussi dans la démarche.
Et l'hiver, on fait quoi ?
L'hiver, il y a le ski de fond, la raquette, les randonnées en peau de phoque qui permettent de faire des distances plus longues, qui permettent de faire le tour du Mont-Lozère en altitude.
Et des spas aussi, non ? Des spas pour se relaxer ?
Voilà. Alors, dans les hébergements qui ont été faits, qui ont été sur l'aspect architectural conforme au Mont-Lozère, on a des gîtes de qualité, donc des spas, parce que, comme le disait tout à l'heure, un intervenant, c'est aussi le bien-être. Et ces derniers temps, on a aussi été quand même à l'écoute de la demande. C'est qu'on a été labellisé au Parc national des Cévennes, premier ciel étoilé.
D'accord.
Donc c'est une démarche aussi qui plaît énormément, parce qu'on a cité tout à l'heure la clientèle, il y a les sportifs, il y a les compétiteurs chez nous, ces petites montagnes, c'est pas la clientèle qu'il est, mais il y a aussi le contemplatif, tout à l'heure on en a parlé du bien-être, mais aussi la clientèle contemplative.
Qui est en quête d'esprit montagnard, voilà, authentique.
Il y a des gens qui viennent chez nous aussi pour ne rien faire,
ouais.
Voilà, c'est-à-dire
ils ont bien raison.
Se reposer, voilà, on ne vient rien faire. Voilà, donc le ciel étoilé permet, on est en train de formaliser avec les
juste pour terminer, excusez-moi, mais oui. Ce modèle économique, il est rentable ?
Alors, il est rentable parce que les premières années ne l'est pas, parce qu'on a confié la gestion par délégation de services publics à un porteur de projet qui lui-même a investi. Donc, le contrat se termine en 2022, en janvier 2022, dont l'équilibre est atteint et le bénéfice commence à être rentable. Donc, bon. En 2022, va se reposer une autre délégation de services publics sur lequel il faudra que...
Il faudra bosser pour avoir des sous. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous en direct ce soir, René Causse, président du syndicat mixte d'aménagement du Mont-Lozère. Armelle Solélac, comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de reconversion ? C'est formidable, malheureusement, ça ne peut pas être pour tout le monde et ce n'est pas encore très rentable. Hein.
Alors, bon, la première chose, c'est que je ne partage pas forcément l'angélisme de certains intervenants sur la situation. Et effectivement, on a quelques exemples de stations de montagne en France qui trouvent un nouveau modèle. Celui qu'on vient d'entendre est intéressant. Il y en a d'autres dans le Vercors notamment. Et ce qu'on constate, c'est que c'est principalement les stations de basse et de moyenne altitude qui ont fait cette transition, qui ont amorcé leur transition. Les stations de haute altitude, pour l'instant, elles se posent simplement des questions et elles n'ont pas du tout réfléchi et même commencé à réfléchir ou très peu commencé à réfléchir. Donc ça, c'est un point de situation qu'il faut comprendre parce que on peut pas traiter toutes les stations de montagne de la même manière.
Mais est-ce que l'hégémonie du ski de piste s'est terminée ?
Oui, mais je pense que c'est pas uniquement dû au réchauffement climatique ou à la crise du Covid. C'est simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que on skie beaucoup moins longtemps parce qu'on a envie de les clients ont envie de faire autre chose en montagne. Et je l'ai dit tout à l'heure, la montagne est extrêmement riche, les territoires de montagne ont beaucoup de choses à proposer et ça correspond tout à fait aux attentes de la clientèle. Donc c'est pas uniquement lié à des causes structurelles, on va dire que ça correspond aussi à ce besoin de la clientèle. De faire autre chose. Il faut comprendre qu'en moyenne, les gens qui viennent skier ne skient plus que 4h30 par jour. Il y a 24 heures dans une journée, donc il y a plein d'autres choses et plein d'autres temps à occuper pour faire d'autres activités, voire, comme l'a dit l'un des intervenants, être dans une approche très contemplative, c'est-à-dire tout simplement ne rien faire, qui est en soi une activité de repos importante.
C'est la fin
et puis
du modèle,
un autre élément à considérer, c'est exactement la fin du modèle tel qu'on le connaît. Il y a d'autres modèles qui arrivent, qui vont trouver leur rentabilité. Certainement pas dans les 2-3 premières années, mais au fur et à mesure, ça va finir par se faire. Je suis assez enthousiaste là-dessus et je me fais pas de soucis. Pour un peu que on laisse la possibilité à ces modèles de voir le jour. Et il y a un vrai travail à faire sur les mentalités qui va être long et forcément un petit peu difficile. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire.
Merci Armelle Solélac. Juste un dernier mot très rapidement, Thibaut Nuc, vous la voyez comment la station de sport d'hiver du futur dans 30 ans ?
Je la vois multiple comme on l'a définie, mais à mon avis, avec, comme je le redis, avec des gens qui viendront là de manière beaucoup plus pérenne et sur des séjours qui seront très diversifiés. Donc après, elle sera plus vertueuse, elle offrira une expérience un peu différente et sans doute plus vraie ou plus recentrée, on va dire, sur les fondamentaux de la montagne, tout simplement.
Merci en tout cas. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir accompagné ce soir. Merci pour ce bol d'air qui nous a permis d'imaginer un peu mieux la montagne de demain. Au passage, on souhaite plein de courage aux montagnards et aux saisonniers.
Europe 1, Isabelle Millet.